Merci de rester avec nous dans Au cœur de l'islam.
Nous allons faire des émissions en direct. Et par extension, ou un musulman.
Est-ce qu'il faudra tirer ses références des savants de sa région ?
Nous sommes tenus d'être musulmans et non d'être des malékites. La connaissance est celle des anciens. Mimouna ta'arf Rabbi, Rabbi ya'arf Mimouna, Mimouna kent jahad. Mimouna n'était pas une traître.
Il est considéré comme le guide des musulmans, ce qui inclut le dernier monothéisme.
Vous avez des coranistes, c'est une secte. Vous avez les hadathiyin, les modernistes, qui visent à annuler tout ce corpus que nous appelons sunna mutahara sahiha. Le vrai croyant s'occupe de sa foi, le mauvais s'occupe de celle des autres.
C'est notre propos sur Alger Chien 3 depuis que l'on a commencé à disserter autour de tous les éléments qui constituent une bonne base pour la pratique claire et correcte de l'islam. Au cœur de l'islam, c'est tous les vendredis à 5h et à 14h sur Alger Chien 3 et sur la page x.com. Au cœur de l'islam, Chien 3.
Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Shekat et Bouchra Yahya.
Monsieur, bonjour, salam, azoul, bienvenue à vous dans Au cœur de l'islam, l'émission philosophico-religieuse de la radio algérienne, Radio Alger Chien 3. Merci de nous accompagner dans ces moments d'excellence à travers lesquels nous faisons des efforts pour nous performer et être toujours sur la meilleure des trajectoires et sur ce fameux Sirat al-Mustaqim à travers lequel nous espérons qu'il nous conduise à un passage et une traversée rapide et facile du pont Sirat. Salam alaikum Kamel Shekat.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alors Kamel Shekat, c'est le retour des pèlerins vers leur pays. Beaucoup d'entre nous sont heureux pour leurs amis, pour les membres de leur famille qui ont eu ce bonheur de faire le Hajj cette année. Oui. Mais beaucoup sont tristes. Pour tout cela, Ibn Rajab al-Hanbali leur dira: "Man lam yastati' al-wuquf bi Arafah falyaqif 'inda hudud Allah alladhi 'arrafahu. Wa man lam yastati' al-mabit bi Muzdalifah falyubayyit 'azmahu 'ala ta'ati Allah liyuqarribahu wa yazdalifahu. Wa man lam yaqdir 'ala nahr hadihi bi Minan falyadhbah hawahu huna liyablugha bihi al-Muna. Wa man lam yastati' al-wusul lil-bayti li'annahu minhu ba'idun." فَلْيَقْصِدْ رَبَّ الْبَيْتِ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. C'est mentionné dans la Taif al-Ma'arif.
Donc alors, moi j'aimerais bien essayer de traduire tout cela. Alors, مَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ. Quiconque n'a pas pu procéder à la halte à Arafah. On l'appelle Arafah parce que on dit que quand Adam et Ève sont descendus sur terre, Adam s'est retrouvé du côté des Indes et je ne sais pas où s'est retrouvé Ève, j'ai oublié, mais ils se sont rencontrés, ils se sont reconnus en cet endroit et c'est à partir de là qu'on a commencé à l'appeler Arafah. Donc quiconque n'a pas pu procéder à cette halte à Arafah, qu'il s'arrête au niveau des limites de Dieu. C'est-à-dire, bon, nous parlons ici d'une halte virtuelle. « Bihududillah illadhi arrafah » C'est-à-dire ces mêmes limites qui nous ont été indiquées par Dieu, subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَبِيتَ بِمُزْدَلِفَةَ فَلْيُبَيِّتْ عَزْمَهُ. تَبِيِّتْ الْعَزْمُ ou bien تَبِيِّتْ نِيَةَ, c'est le fait de faire vœu en son fort intérieur d'être sur une trajectoire qui plaît à Dieu. Parce qu'ici il dit فَلْيُبَيِّتْ عَزْمَهُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ لِيُقَرِّبَهُ وَيَزْدَلِفَهُ, c'est-à-dire le rapprocher et le faire admettre, on va dire, dans une cour de privilégiés ou de favoris. وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَحْرِ هَدِيهِ بِمِنَنْ, quiconque n'a pas pu immoler son offrande à Minan, فَلْيَدْبَحْ هَوَاهُ, qu'il immole, qu'il égorge ses passions ici pour atteindre les objectifs souhaités. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْوُصُولَ لِلْبَيْتِ لِأَنَّهُ مِنْهُ بَعِيدٍ, quiconque n'a pas pu arriver à la maison sacrée de Dieu car elle est loin de lui, فَلْيَقْصِدْ رَبَّ الْبَيْتِ, qu'il prenne pour destination le seigneur de cette maison sacrée, parce qu'il est plus proche de lui que sa jugulaire. فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Allahu Akbar.
Et donc, Kamal Shakat,
tout est facile.
La destination
pour peu que vous le vouliez. Ça nous rappelle ce fameux hadith du messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, qui a dit à ses compagnons, tous, vous accéderez tous au paradis, sauf ceux qui ne le veulent pas. Et on lui dit, mais qui ne le voudrait pas au messager de Dieu ? Qala man ata Allah, quiconque a obéi à Dieu ira au paradis, et quiconque a refusé d'obéir à Dieu, a refusé d'aller vers ce paradis. Donc la chose, elle est à la portée de tout le monde finalement. Alors pour ceux qui n'ont pas pu aller là-bas, à la limite, ça peut se comprendre. Mais pour ceux qui sont allés là-bas une quarantaine de fois, honnêtement. Vous savez, même quand on est un super milliardaire, on peut y aller une fois tous les 5 ans, par exemple. On peut dans ses priorités le fait d'aller faire un pèlerinage une fois toutes les 5 années. Ça suffit largement. Nous avons des gens, je connais moi-même des gens qui, depuis très très longtemps, y vont chaque année, quitte à faire n'importe quoi pour y aller. Même si la chose consistait par moment à enfreindre les limites de Dieu. Tel que le fait d'acheter un passeport ou de soudoyer des gens pour avoir un passeport pour le Hajj. Ça, je suis désolé, ça n'a absolument rien à voir avec l'esprit que nous a légué le messager de Dieu, alayhi salatu salam, et les pieux prédécesseurs. Avant même de faire ma première visite pieuse, et alors que j'avais la possibilité d'y aller, à plusieurs reprises, l'argent qui était destiné à cela a été donné à des gens qui devaient subir des interventions chirurgicales lourdes, ou bien a été donné à des gens qui étaient en phase de se marier et qui s'étaient retrouvés dans l'impasse. Alhamdoulilah, Rabbi a fait en sorte que je fasse cela en comptant justement sur Dieu pour que la chose se fasse. Et le jour où ça s'est fait, j'ai eu la possibilité de faire un pèlerinage en VIP. Je faisais partie des invités du roi. Et j'ai eu aussi l'occasion, cette année même, de faire une visite pieuse en VIP. Vous imaginez, vous entrez dans Rauda et que vous êtes seul à l'intérieur et vous avez pratiquement une heure devant vous. Rauda, c'est un coin du paradis qui existe sur Terre. Je pense sincèrement que quand on fait certaines choses en ne comptant que sur l'agrément de Dieu, quitte à perdre certaines autres choses, Dieu fera en sorte de rattraper le coup pour vous, ne vous en faites pas. Donc, je préfère que les gens comptent sur cela plutôt que de faire n'importe quoi, n'importe comment, juste pour assouvir une envie du moment comme ça, tel que le fait d'aller coûte que coûte faire le pèlerinage. Non, je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. Donc ceux qui ne sont pas allés à la limite, oui, je pourrais comprendre, mais pour ceux qui ont fait un pèlerinage chaque année pendant les 20 dernières années, je ne vois pas à quoi cela vous sert-il si l'on n'arrive toujours pas à déceler en vous les effets de tous ces pèlerinages successifs.
Kamal Shakat, le départ à la Mecque pour effectuer son hajj nécessite une organisation très rigoureuse, mais le retour nécessite une surveillance encore plus rigoureuse.
Écoutez, n'oubliez pas que si vous avez accompli ce pèlerinage comme il se doit, vous retournez chez vous comme le jour où votre mère vous a mis au monde. Est-ce que ça vaut le coup de retomber ensuite dans des comportements qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui est souhaité en religion ? Est-ce que ça vaut le coup ? Ensuite, c'est une surveillance de tous les instants.
Comment doit se faire cette surveillance, Kamal Shakat ? À quel niveau ?
Bon, tout d'abord, la difficulté inhérente à cette surveillance. Il y en a qui n'ont pas besoin de se surveiller parce qu'ils vont vraiment être sur la bonne trajectoire du fait qu'ils aient accompli leur pèlerinage avec toute la bonne intention qui devrait animer le pèlerin avant même d'aller là-bas. Tout comme c'est le cas pour le mois de Ramadan. Qu'est-ce que la preuve ou l'argument qui plaiderait pour un bon pèlerinage ? C'est le fait de voir le changement avec lequel va revenir ce pèlerin. Certains vont revenir comme des anges, d'autres, malheureusement pour eux, vont vraiment se transformer en diable. Mais attention, si je dis cela, il faut prendre en considération un autre point. Il y a des gens qui vont faire leur pèlerinage et qui vont, une fois là-bas, prendre conscience de la réalité de sa vie, de cette vie, et qui vont prendre la ferme résolution de changer, dans le bon sens. Une fois de retour, ils ne vont plus s'adonner au même comportement qu'ils avaient avant. Ce qui va peut-être gêner certains faisant partie de leur entourage proche, immédiat, et ces gens qui leur étaient proches et avec lesquels ils se laissaient aller à certains comportements jugés inappropriés, entre guillemets, ces mêmes gens vont dire d'eux « Ah, tu sais, depuis qu'il est revenu, il a complètement changé. » Oui, tu vois, toi, ce changement, et tu le vois d'un mauvais œil, parce qu'il ne fait plus les 400 quoi avec toi, tout simplement. Alors là, il y a des gens qui pourraient médire de certains pèlerins dans ce sens. Et là, c'est celui qui a fait son pèlerinage qui est dans le bon sens, et non celui qui médit de lui. Mais nous remarquons chez certains qu'ils ont vraiment un mauvais comportement à leur retour. J'ai peur de le dire, mais je pense honnêtement que c'est là un signe ou le signe d'un acte, d'un rituel, d'un acte d'adoration qui n'a pas été agréé par Dieu.
Aïe.
Je pense ça et je ne voudrais pas me retrouver dans cette situation. Je ne pourrais pas penser autre chose dans la mesure où, vraiment pour certains, quand ils reviennent de là-bas, ils ont un comportement exécrable, mais avec tout le monde. Et là, ma foi, qu'est-ce que vous pouvez penser de ce pèlerinage ? D'ailleurs, nous avons un adage chez nos grands-mères qui vous diront « Rahi hajj hajj ». Certains le disent, donc il faut vraiment prendre conscience d'une chose. Notre relation avec Dieu n'admet aucune demi-mesure. Soit vous y allez à fond dans le bon sens, soit n'y allez pas. Si vous avez des manquements, ayez au moins en vous cette correction que de reconnaître que vous êtes un être faible. Et priez Dieu pour que lui-même veille à votre réforme. Mais aller faire quelque chose pour devenir ensuite imbu de sa personne et voir les autres de haut, ça je suis désolé. C'est l'image que nous avons de ces pauvres, je le dis et je pèse mes mots, ces pauvres entre guillemets pseudo-salafistes ou néo-salafistes, dont certains étaient dealers de drogue et du jour au lendemain ça devient des petits savants en herbe qui sont là pour jeter l'anathème sur toute une nation. Je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. Alors, quand quelqu'un est dans le mauvais chemin, qu'ensuite il intègre une mosquée pour devenir un assassin qui pourrait aller jusqu'à tuer les gens au prétexte qu'ils ne sont pas sur la bonne trajectoire, ceci est un signe d'une mauvaise repentance. Et il en est de même pour quelqu'un qui s'adonne à un acte religieux, à un rituel, à un acte cultuel. Si après l'accomplissement répété de cet acte rituel, le comportement reste mauvais, je pense honnêtement que c'est le signe d'un désagrément de Dieu, d'un acte qui n'a pas été agréé par Dieu.
Kamal Chokat, mais pour la plupart des hajj et des hajjat, ils ont mérité ce titre, hein, hajj ou hajja, même oui. Si ce terme est usurpé chez nous, dès qu'on voit une personne de troisième âge, on l'appelle hajj ou hajja, n'est-ce
oui,
pas ?
Oui, bien sûr. Bon, vous savez, généralement, quand les gens vous le disent, essayez de leur faire rappeler que voilà...
Nous sommes des aspirants.
Il n'y a pas lieu de m'affubler d'un titre comme ça, mais... Ça ne pose pas de problème. Vous savez, la majorité des gens nous disant le hajj et le hajja pour des gens qui n'ont même pas fait leur pèlerinage.
Ouais.
C'est un signe de respect que nous avons, pas plus ni moins.
Alors Kamal Chokat, pour la majorité des hajjis, cette expérience du hajj laisse quand même une trace, une marque profonde. Dans la plupart du temps, il y a un meilleur comportement, même si vous avez observé quelques manquements ou carrément un écart de conduite, hein. Parce qu'avant le départ au hajj, on était meilleur. Alors, on note une meilleure conscience vis-à-vis des choses de la religion, peut-être dû à cette proximité de Dieu, subhanahu wa ta'ala.
Oui, écoutez, le pèlerinage en lui-même est un voyage initiatique, c'est-à-dire que vous allez là-bas pour changer de peau, pour changer de vie, pour vous réformer.
On est une nouvelle personne, carrément.
Pour devenir carrément une nouvelle personne. Vous revenez au monde comme au jour où vous avez été créé par Dieu, c'est-à-dire une page blanche, mais avec une conscience, avec une responsabilité, avec le fait que vous avez une compréhension de la vie qui n'est pas celle d'un petit enfant. Donc à partir de là, tout devrait aller dans un sens qui est propice à votre salut le jour de la résurrection. Et quand nous parlons de comportement, ça ne concerne pas uniquement les actes cultuels, ça concerne aussi et a un plan tout aussi important que l'acte cultuel lui-même, ça concerne toutes les conséquences d'un acte cultuel, comme la prière. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, la prière détourne du blâmable et de la turpitude. Donc à partir de là, votre pèlerinage devrait faire de vous un bon citoyen.
Comment rester dans cette constance, Kamal Shkat? Comment maintenir ce comportement spirituel?
Alors il faut être assidu aux obligations religieuses, mais il faut aussi les agrémenter des actes surérogatoires.
Très bien.
Ensuite, à partir même au-delà des actes surérogatoires, le sunan, vous allez ensuite devoir encore ajouter à tout cela les actes souhaités en religieux, le mustahabbat. Et à ce moment-là, vous êtes en train d'œuvrer sur trois paliers. Si le plus bas, c'est-à-dire celui de ce qui est considéré comme mustahab ou mandoub, donc juste souhaité en religion, s'en va, il vous reste le surérogatoire et l'obligatoire. Si par laxisme ou par manquement, ce qui est d'ordre surérogatoire venait à diminuer ou à disparaître, vous avez au moins préservé ce qui est fait office d'obligation. Mais si vous n'êtes que dans l'obligatoire et que vous fassiez preuve de laxisme ou de relâchement, c'est l'obligatoire qui va partir. Vous avez une partie de votre religiosité qui va disparaître de votre comportement au quotidien. Et quand je dis comportement, le mondain doit automatiquement se conjuguer et se mêler au religieux. Il n'y a pas de dissociation entre les deux dans la logique de l'islam. Donc comment rester sur cette bonne trajectoire en multipliant les actes de bien sans négliger aucun? Et comme l'a si bien dit le messager de Dieu, alayhi salatu salam, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Ne sous-estime rien des bonnes mœurs ou de ce qui est souhaité religieusement parlant, ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un visage souriant ou avec un visage affable.
Donc occuper son temps à accomplir de bonnes actions tant que possible.
Oui.
Avoir un quotidien meilleur qu'avant, c'est un signe que le hajj a été accepté, que le hajj est mabrour.
Juste après le pèlerinage, c'est l'un des signes que le pèlerinage a été agréé.
Et si ça continue même au-delà?
C'est ce qui, normalement, c'est ce qui devrait se faire.
Nous avons remarqué, Kamal Shkat, qu'après le retour des pèlerins, pendant un bon laps de temps, ils ne cessent de raconter ce qu'ils ont vécu. Parfois, on parle même d'un certain nombre de miracles.
Les miracles sont des ruptures de l'habitude qui sont directement liées, physiquement et intimement liées aux messagers, aux prophètes. Pour le reste, nous parlons de karamat. C'est pas des miracles, c'est des ruptures de l'habitude, bien entendu, que n'importe qui pourrait connaître dans sa vie. Généralement, c'est les favoris de Dieu, Aulia Allah, les pieux serviteurs de Dieu qui connaissent cela. Des savants, des gens vertueux, etc. Mais bon, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Tout le monde pourrait assister ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Ça n'est pas une condition sine qua non, mais beaucoup de gens ont généralement accès à ce genre d'expérience, on va dire. Vivre quelque chose qui est un peu, qui sort un peu de l'ordinaire et qui relève du miracle. Oui, certains pourraient le dire. Vous savez, quand vous êtes branché, entre guillemets, connecté à Dieu, on va dire, vous arrivez à déceler les miracles de Dieu, même pour ceux qui paraissent le plus banal. Le fait déjà que vous vous réveillez le matin et que vous soyez animé de cette vie, le fait que votre âme fasse partie de ce monde physique, n'est-ce pas un miracle ? Pourquoi essayer de tomber sur quelque chose qui sort de l'ordinaire ? L'ordinaire en lui-même n'est-il pas en soi un miracle renouvelé? Nous vivons dans ce monde. Le fait déjà que vous preniez conscience que la création de ce cosmos qui nous entoure et dans lequel nous sommes mais alors infiniment insignifiants, le fait de nous retrouver là et de savoir que cette création de Dieu a toujours cours, elle est en progression constante. Si vous partez du principe que les limites du cosmos, nul ne peut les atteindre puisqu'il y a une expansion du cosmos, puisque ce fameux bouclier de Kelvin ne cesse de s'agrandir, cela n'est-il pas un miracle? Le fait de voir toutes ces formes de vie qui vous entourent, le fait de voir cette alternance du jour et de la nuit, le fait...
Ou même ces petites choses que vous ne voyez pas, parce qu'on dit que le miracle réside dans les choses les plus petites, les plus simples.
Absolument. Maintenant, écoutez, votre corps est fait à la base de cellules qui, en se regroupant, donnent des tissus. Ces mêmes tissus, en les regroupant, vous avez des organes. Ces mêmes organes, en les regroupant, vous avez des systèmes tels que le système respiratoire, circulatoire, digestif. Et puis, tous ces systèmes regroupés vous donnent un corps qui est animé par la vie. Si vous n'arrivez pas à voir en cela un miracle, à quoi vous sert cette raison dont Dieu vous a doté? Une personne connectée à Dieu est une personne qui arrive à déceler tout cela. Et la chose ne concerne pas uniquement l'usage auquel nous pourrions avoir recours en termes de raison. Le messager de Dieu, alayhi salat, vous le dit dans un hadith, quiconque se réveille le matin en étant sain de corps et d'esprit, en ayant autour de lui tous les membres de sa famille en bonne santé, en ayant la subsistance de sa journée, c'est comme si on avait rassemblé tout ce qui pouvait faire de sa vie une vie agréable de toutes parts. Est-ce que cela, dans la situation que vit notre nation actuellement et surtout avec ce que vivent nos frères à Gaza, est-ce que cela, ça ne vous donne pas matière à réfléchir sur toutes les bonnes choses qui font notre quotidien?
À se maintenir dans la gratitude.
Oui,
surtout.
C'est ça, donc c'est...
Donc
c'est à ces petites choses-là que ça se résume, en fait. Ça vous permet d'avoir de l'espoir, ça vous permet d'être dans un état qui ferait de vous l'une des entités qui remercie Dieu pour tout ce qu'il lui a accordé, et ça vous fait minimiser les affres de la vie. Donc c'est ça qui nous maintient généralement sur une bonne trajectoire. Par contre, ceux qui sont dans une autre logique, ici en Algérie, nous en avons 13 à la douzaine, du genre qui vient vous dire « Doula madart l'nawalo », mais attends, c'est pas à l'état de faire quoi que ce soit pour toi, c'est à toi de faire quelque chose dans ta vie, subhanallah. Ces gens-là sont toujours en train de se lamenter, de se plaindre, de je ne sais quoi, et à partir de là, vous allez tout voir en noir. Quand bien même vous seriez sous vous vous retrouveriez sous les meilleurs auspices. Rien de ce qui est beau, bon et bien ne vous paraîtra. Et à partir de là, vous allez devenir une mauvaise personne, avec un mauvais comportement.
Nous sommes donc au cœur de l'islam tous les week-ends, donc tous les vendredis à 5h et à 14h sur Radio Alger Chaîne 3. Et dans la thématique d'aujourd'hui, nous insistons sur le comportement des pèlerins, donc après le retour, après cet immense honneur, après cette bénédiction de Dieu subhanahu, après l'accomplissement du cinquième pilier de l'islam. Kamal Chekat, juste avant cette pause, nous parlions de certaines ruptures de l'habitude, ou ce qu'on appelle communément les miracles. Nous avons tous eu vent de récits, par exemple, de cette personne frappée de cécité qui, se retrouvant face à la Kaaba, elle recouvre la vue.
Oui.
Ou bien cette personne atteinte d'adénocarcinome, d'un cancer, après avoir donc bu de l'eau de Zamzam pendant plusieurs jours, une quinzaine de jours et parfois moins, parfois plus, le médecin ne détecte plus ces cellules cancéreuses. C'est bel et bien des miracles, mais il y a d'autres. Autre miracle, c'est de se mettre sur Sirat al-Mustaqim, cette même prière qu'on avait faite au début de cette émission. Certes, ce n'est pas facile, mais vous disiez que le fait de rester dans cet esprit de dhikr, de l'évocation de Dieu subhanahu, de multiplier les actes de bienfaisance, de charité, c'est une façon de se mettre sur maqam al-ihsan, Kamal Chekat.
Oui, absolument. Alors, Sirat, c'est un pont. C'est un pont qui traverse la GN. Sirat al-Mustaqim évoqué dans Sourate al-Fatiha, c'est le droit chemin qui est celui de la rectitude. Mais là, nous parlons d'un pont qui traverse l'enfer, qui traverse la GN. Je ne sais plus quel est ce compagnon qui le décrivait et qui disait « Il est aussi fin qu'un cheveu et aussi aiguisé qu'une épée ». Les hadiths que nous avons concernant ce fameux Sirat et que, comme l'a si bien dit le prophète, alayhi salatu wassalam, alors les gens qui le traversent, attention, ce ne sont pas les koufars, ce ne sont pas les munafiqines, les hypocrites, parce que ceux-là, ils sont carrément versés. Oui. Il y en a parmi ceux qui le traverseront, qui tomberont dans la géhenne, mais qui ne sont pas voués à y rester éternellement. Mais en tout cas, ceux parmi ceux qui le traverseront, certains le traverseront à la vitesse d'un éclair, d'autres à la vitesse d'un vent rapide, d'autres à la vitesse d'un oiseau, d'un volatile rapide ou bien d'une marche consistante, certains à la vitesse d'un cheval au galop. Ceci en fonction des œuvres des gens, justement, telles qu'elles étaient dans leur vie terrestre. Et sur ce sirat, certains textes fondateurs nous parlent de Kalalib mitlashouki sa'dan fatakhtifu nasa bi'a'malihim. Celui qui tombe, alors ce sont des crochets, des pinces, ou bien comme des épines de chardon, comme ça, qui agripperont les gens. Certains le passeront et seront indemnes, arriveront indemnes à la rive du salut. D'autres seront blessés par ces chardons, par ces crochets ou ces accroches qui veulent les tirer vers le bas. Et certains tomberont, mais ne demeureront pas éternellement dans cette géhenne. Nous avons même un hadith rapporté par l'imam Ahmed, où le messager de Dieu, alayhi salatu salam, « Inna akhira man yadkhulul jannata rajulun yamshi ala sirati fa yankabu marratan wa yamshi marratan wa tasfa'uhu an-naru marratan fa idha jawaza sirata altafata ilayha fa qal tabaraka alladhi najjani minki laqad a'tani Allahu ma lam yu'ti ahadan min al-awwalin wal akhirin. » Donc il y a des gens qui vont vraiment marcher sur ce pont, sur ce fil. Ils sont sur le fil du rasoir, comme dirait l'adage, et ils vont tomber, se récupérer, s'accrocher, et puis remonter, et puis à la fin, ils ne pourront que remercier Dieu de les avoir sauvés, justement, de la chute. C'est ça, Sirat. Le passage est tributaire de votre comportement d'ici-bas, ou la rapidité avec laquelle vous allez le traverser est tributaire de votre bon comportement dans le monde d'ici-bas.
Parmi donc les prières à multiplier, Kamal Shakat, c'est d'être préservé de ce passage, de cette traversée.
Absolument.
Est-ce qu'il y a des hadiths où le prophète alayhi salatu wasalam mentionnerait ceux qui passeraient rapidement et de façon facile? Quelles sont leurs qualités? Quel a été leur parcours quotidien sur cette terre?
Écoutez,
durant leur vie, quelles ont été leurs principales qualités?
Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le messager de Dieu, alayhi salat, nous dit « Yudrabu jisru jahannam » donc ce fameux pont. « Fa akunu awwala min yujiz » donc le premier à passer, c'est le messager de Dieu. « Wa bihi kalalibu mithla shawki sa'dan » donc il y a des crochets comme les épines d'un chardon. « Fa takhtifu nasa bi a'malihim » donc ces mêmes chardons vont agripper les gens et les faire les choper en quelque sorte en raison de leurs œuvres. Minhum al-mubiqu bi'amalihi, certains tomberont du fait qu'ils aient eu de mauvaises actions. Minhum al-mukhardalu thumma yanju, donc il y en a certains qui s'agripperont, qui seront blessés, mais qui en définitive passeront ce fameux sirat. Ceux qui passeront comme un éclair, etc., sont ceux qui ont eu le meilleur des comportements dans ce bas monde, tout simplement.
Pas beaucoup d'actions forcément.
Pas forcément. Quand nous parlons d'action, il faut bien comprendre une chose, c'est que le Coran insiste sur la qualité de l'action et non sur la quantité. Vous avez ce fameux hadith où le messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, vous dira « Ghalaba dirhamun mi'ata alfi dirham » un dirham l'a emporté sur 100 000 dirhams. Comment cela, lui dit-on au messager de Dieu? Il a dit « Un homme riche qui donnerait 100 000 dirhams de sa fortune et un pauvre qui n'a que 2 dirhams mais qui en donna en guise d'aumône. » Donc il sait qu'en dépit de ses besoins, il s'est privé de la moitié de sa fortune. Alors le dirham qui a été donné par ce pauvre vaut beaucoup plus que les 100 000 dirhams que le super riche aura donné de son surplus, que vous le vouliez ou non. Cela n'ôte aucun mérite aux riches, hein, parce que ce fameux riche qui donne 100 000 dinars et qui les donne de manière régulière est quelqu'un qui a peut-être plus de mérite que le pauvre qui n'en a pas, parce que ce pauvre, d'ailleurs on en a déjà parlé, qu'est-ce qui vaut le plus? Le riche qui remercie Dieu pour les biens qu'il lui a accordés en donnant, en faisant largesse de ses biens, ou bien le pauvre qui fait preuve de patience et d'endurance face à l'adversité de la vie. Beaucoup de savants s'en plaident beaucoup plus pour le riche, parce que ce pauvre qui a fait preuve de patience et d'endurance, il n'a pas eu d'autre choix que d'aller vers cette endurance, même si la chose est difficile et même si cette endurance, on ne va pas la retrouver chez tout le monde. Mais ce riche, ou ce richard qui a fait largesse des dons de Dieu ou de ce que Dieu lui a prodigué, c'est quelqu'un qui a énormément de mérite dans la majorité où la chose n'est pas non plus facile. Donc c'est ça, quand nous parlons de ce fameux Sirat et de la vitesse à laquelle on va le traverser et le parcourir en dépit de sa difficulté, eh bien, elle est tributaire de la qualité de l'action et non pas de la quantité. C'est pour ça que le plus important, c'est de se maintenir dans une logique d'action vis-à-vis de Dieu. C'est ça.
Dans cette logique d'action, Kamal Shekat, pardon, est-ce qu'il faut essayer d'en savoir un peu plus ou d'élargir ses connaissances sur la religion, sur la foi? Et Ibn Rajab al-Hanbali nous parlait de s'arrêter aux limites de Dieu.
Oui.
Est-ce qu'il faudra pousser ses connaissances plus loin, quoi qu'il ne nous ait pas demandé d'être un savant en islam?
Oui, mais maintenant, bien sûr que nous sommes tous tenus de savoir le maximum que nous pourrions savoir sur tout ce qui a trait aux choses, entre guillemets, de la religion. Mais là encore, que vous ayez beaucoup de science ou très peu de science, ce qui va faire la différence entre les gens, c'est ce cœur dont Dieu nous a doté et de la manière dont il interagit vis-à-vis de Dieu ou avec Dieu. C'est ça qui va faire la différence. Les compagnons, chacun était dans sa propre logique. Je ne sais plus quel était ce compagnon du messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, qui est passé par un groupe de gens en train de discuter. Qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit, na'uddu hasanatina. Nous sommes en train de compter un peu nos bonnes actions. Un tel a fait tant de louanges, un tel a fait tant de glorifications, un tel a fait ci, un tel a fait cela. Il a dit, la ta'uddu hasanatikum, walakin, ou bien bal'uddu sayyatikum. Chacun sa logique. Il y a des gens qui sont dans un positivisme tel qu'ils ne pensent qu'aux bonnes actions qu'ils ont faites. C'est une bonne chose si les bonnes actions remplissent toute la journée. D'autres ont peut-être plus de scrupules, ils sont vraiment en train de voir s'ils n'ont pas fait de mal à autrui, s'ils n'ont pas commis un impair, s'ils n'ont pas fait preuve de manquement vis-à-vis de Dieu. Donc chacun a sa logique. Chacun se construit selon la logique qu'il a choisie pour sa propre personne. Le plus important, c'est la finalité de l'acte.
Justement.
Où est-ce que cela va vous conduire?
Pourquoi je vous ai posé cette question, Kamal Shekat? Dans un dars, j'écoutais un moufti qui, dans ses conseils aux pèlerins de retour à leur pays, il leur disait de mieux comprendre la Hajjat al-Wada de Sidi Mohammed al-Islatu al-Salam, l'oraison d'adieu, et d'en faire même un manuel de survie.
Oui. D'ailleurs, nous sommes actuellement avec le secrétaire général de la Ligue des Oulémas des pays du Sahel et notre frère Mohamed Deif, le président du conseil scientifique de la Ligue. Nous sommes à la 7e ou 8e émission sur Hajjat al-Wada.
C'est ce que vous avez fait l'année dernière, Kamashikat, dans Au cœur de l'Islam.
Donc, Hajjat al-Wada, c'est un code de conduite, c'est une constitution.
Oui.
Guénon parlait des vrais musulmans, de ceux qui sont vraiment assidus au culte, de ceux qui sont connectés à Dieu, il parlait d'une constitution intérieure, c'est-à-dire de quelque chose à l'intérieur même de la personne qui va animer tout son comportement, qui va faire en sorte que la personne en question ne tombe pas dans l'erreur, qu'elle ne fasse pas de mal, etc. Et Hajjat al-Wada,
un manuel de survie, Kamal Shekat.
Oui, carrément, parce que elle vous permet déjà. Vous savez, dans cette Hajjat al-Wada, le messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, on a l'impression qu'il répond au mythe du moment.
Oui.
Vous savez, la pseudo-science qui règne dans le monde actuel, elle nous a gavés de mensonges. Dans la mesure où, voilà, on va vers l'humanisme. Et à chaque fois, nous sommes dans ce que nous appelons en langue arabe « harboul mustalahat », la guerre des terminologies. Et le Coran a mis l'accent sur le problème en disant à maintes reprises « in hiya illa asma'un sammeytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan ». Ce sont là des appellations que, par convention, vous avez imposées, vous et vos pères. et au sujet desquels Dieu n'a pas fait descendre une science avérée. Le fait de parler d'humanisme, vous savez qu'actuellement, beaucoup de musulmans ont tendance à confondre entre humanisme et humanité. L'humanisme, c'est un courant philosophique qui fait de l'homme la mesure de toute chose, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas besoin de Dieu. C'est ça l'humanisme. Le messager de Dieu, alayhi salam, dans cette oraison d'adieu, déjà nous fait comprendre que voilà, vous êtes des êtres humains, vous êtes tributaires du bon vouloir de Dieu, que vous le vouliez ou non. Ensuite, cette oraison d'adieu, qui est d'essence religieuse, elle va avoir des débordements, pratiquement de manière quasi exclusive, d'ordre social. Ça n'a rien à voir avec le fait de prier avec dévotion ou d'accomplir le jeûne avec abnégation, de faire telle ou telle chose. Ça concerne la sacralité de la vie, ça concerne la sacralité des biens, ça concerne le fait de se maintenir dans une logique qui prend en considération l'animosité d'Iblis à l'encontre de l'être humain. Le messager de Dieu ira jusqu'à dire « Inna shaytana qad ya'isa yu'bada bi'ardikum ». Le diable a perdu tout espoir d'être adoré ici sur votre terre. Et c'est vrai, nous n'avons plus d'idole ou de stèle dédiée à Satan, contrairement à ce que font les satanistes actuellement. Mais il s'accommode de ce que vous jugez négligeable de vos comportements. Oui, non, ça c'est pas un problème. Et vous vous laissez aller jusqu'à ce que le mauvais comportement devienne votre constitution intérieure. Il va prendre le pas sur ce qui devrait être votre comportement de musulman. Et vous allez remarquer que dans cette oraison d'adieu, vous avez la notion de déontologie qui va revenir, puisque le messager de Dieu, alayhi salatu salam, va commencer par annuler les taux usuraires de son oncle Abbas. Il va faire
la dette de sang d'un de
ses proches, et ainsi de suite. Il va de istawsou bin nisa'i khayran. Ça veut dire que nous sommes face à une personne qui sait en quoi consiste l'humanité, qui sait en quoi consiste une société. Une société qui est amputée de la femme est une société qui est vouée à la disparition, tout simplement. Istawsou bin nisa'i khayran. Mais donc, faites bonnes recommandations en faveur des femmes. Et il va donner au bien personnel une sacralité, une dimension terrible. Il va nous plonger dans la réalité de cette vie tout en nous mettant en garde face aux mythes du moment. Des mythes qui sont devenus presque pratiquement une science et qui animent les cercles dits intellectuels qui, soi-disant, devraient penser, réfléchir à la place de toute l'humanité. Donc
ça touche au à l'héritage.
C'est ça. C'est ça. Donc c'est une véritable constitution qui pourrait devenir, je ne sais pas moi, un acte de ou une constitution inhérente à la survie même dans la mesure où elle est propice à la propagation de la vie et non le contraire.
On devrait l'étudier à tous les niveaux, Kamal Chakat, cette constitution. Mais appeler ça manuel de survie au lieu de manuel de vie, c'est que il y a des choses contraignantes. Nous sommes
peut-être,
en pleine crise.
Vous savez, quand vous parlez de survie, peut-être que ce terme n'aurait pas été approprié il y a 30 ou 40 ans de cela.
Ouais.
Mais là, actuellement, avec tout ce que nous voyons, oui, ça devient vraiment un manuel de survie. Quand vous avez des gens qui se disent bien pensants, qui viennent dans des médias lourds pour dire « Oui, voilà, il faut effacer les habitants de Gaza, il ne faut pas avoir de pitié à leur égard. Oui, nous devons défendre la liberté. » Mais de quelle liberté vous nous parlez, subhanallah al-adhim ? Ça devient vraiment un manuel de survie. Parce que l'humanité ou le genre humain est en train de se déshumaniser face à ce génocide qui est le génocide le mieux documenté, le génocide que tout le monde est en train de vivre en direct, en live, où certains viennent parce que je ne sais quelle chose est en train d'obstruer leur regard. Certains viennent et vous disent « Non, 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 c'est un mal nécessaire, un bien pour un mal. » Alors, ou un mal pour un bien, je ne sais pas comment les gens réfléchissent. Mais en tout cas, « Khutbat al-Wada' » est un serment, une oraison qui renvoie l'être humain à sa responsabilité d'être humain avant de le renvoyer vers sa responsabilité d'adorateur de Dieu.
Mais pour l'instant, Kemal Shekat, nous sommes dans ce verset du Deutéronome. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous, n'est-ce pas?
Oui.
Le monde assiste avec stupéfaction à la progression calamiteuse des traces des pas juifs dans un Israël en constante expansion. Et certains continuent de dormir ou de regarder ailleurs alors que la Palestine brûle et même d'autres pays musulmans. Et ma foi, il faudra cogiter sur cette question et prendre les devants.
Là, je voudrais rebondir sur ça puisque nous sommes en train de citer la Palestine. Jamais, au grand jamais, l'humanité n'a connu pareille aberration. Quand je dis aberration, je suis dans... Écoutez, actuellement, quand vous étudiez les données inhérentes, par exemple, aux grandes puissances, telles que les États-Unis et certains de ses alliés, quand vous étudiez l'état dans lequel se trouve cet accident de l'histoire appelé Israël, normalement, cette guerre aurait dû s'arrêter au bout du troisième, quatrième mois après Tofan Larsa. Parce que toutes les conditions étaient arrêtées pour que ce mal, entre guillemets, cesse. Le problème est que ce mal est en train de perdurer parce qu'il a été alimenté par les richesses des pays arabes.
Ouais.
Qu'on le veuille ou non, n'eût été les renégats arabes, n'eût été nos vendus, cette guerre n'aurait pas persisté. Ce sont des Arabes qui sont en train d'alimenter cette animosité, ce génocide. Ce sont des Arabes qui sont en train de le maintenir. Et ces Arabes sont conscients que d'un seul geste, ils pourraient tout arrêter, mais ne le font pas, malheureusement. Et voilà. Donc, c'est bien malheureux de le dire. Et vous savez, généralement, à chaque fois que je vois cela, même si... Personnellement, je n'ai absolument rien fait de palpable pour apporter une aide, quelle qu'elle soit, aussi minime soit-elle, à nos frères en Palestine. N'eût été ces petits moments de doua, de prière adressée à Dieu en leur faveur. Je ne peux que remercier Dieu de me retrouver dans cet espace géographique appelé l'Algérie et qui, au moins, et selon ce que disent les sionistes, au moins, a eu une position qui est meilleure que celle affichée par l'Arabe.
Nous sommes à plus de 60 000 victimes en Palestine, Kemal Shekat.
Et oui, c'est ce que nous savons des victimes. Nous ne parlons pas des disparus.
Dans un des hadiths relatés ou qu'on retrouve dans le Kitab al-Fitan de Noaïm ibn Muhammad, il est dit que les pertes en Palestine pourraient atteindre les 70 000 victimes ou même plus.
Oui, mais attendez, le problème avec ces textes, c'est que dans la langue arabe, dans l'usage même de la langue arabe, tel que nous avons, tel que cela est dit dans
le chiffre exact,
c'est qalul hada yansarifu il katra. Quand on dit 60 000, 70 000 ou 100 000, ça veut dire qu'il y aura un nombre quand même assez élevé. 60 000 pour l'époque, c'était quelque chose d'énorme. Actuellement, c'est insignifiant. Ça a juste de quoi vous remplir un stade. Donc tout est relatif. Nous, notre logique, nous, la logique que nous a apprise l'islam est que rompre la vie d'une seule personne, c'est équivaut à rompre la vie de toute l'humanité. Donc, c'est ça, la vie est tellement précieuse que nous n'avons pas normalement besoin d'aller jusqu'à un génocide pour commencer, pour tirer la sonnette d'alarme. Quand une personne meurt, c'est déjà une hécatombe. Et puisque nous avons parlé du pèlerinage la semaine dernière et qu'aujourd'hui nous parlons du retour de ce pèlerinage, cette logique, c'est celle du messager de Dieu, alayhi salatu salam, qui, s'adressant au cube noir, disait « Le sang d'un seul croyant vaut plus pour Dieu que tout l'honneur qui t'a été destiné. » Donc ça nous met face à cette préciosité de la vie telle qu'elle est tel qu'on la retrouve dans les textes fondateurs.
Thank you.
Eh bien, merci à vous, Kamal Shakat. Nous arrivons au terme de cette série d'émissions, 6 numéros dédiés donc au pèlerinage et à l'importance de la Kaaba al-Musharrafa. Nous avions aussi évoqué donc l'importance de Beit al-Maqdis dans ce circuit du pèlerinage. Oui. Et pour tout musulman, Beit al-Maqdis est super importante. C'est le deuxième lieu de culte fondé et construit après le Beit al-Muharram. Oui. Kamal Shakat, lors de la troisième émission autour de la Kaaba et du Hajj, vous disiez que le fait de regarder la Kaaba est un acte d'adoration.
Absolument.
Est-ce que c'est le cas quand vous regardez le Kaaba à travers la télévision? Est-ce que c'est le cas aussi pour Beit al-Maqdis?
Vous savez, par extension, oui, parce que vous êtes face, c'est ce que nous vivons généralement le jour de Arafat. Parmi les points qui nous maintiennent en rapport constant avec ce lieu, c'est la télévision. Bien sûr, vous ne pouvez pas tourner autour de votre télé cette fois et simuler la circumambulation, c'est clair. Tout comme vous ne pouvez pas vous mettre derrière votre poste télé le vendredi et suivre la prière du vendredi en direct et vous dire que vous avez accompli la prière, certes.
Certaines femmes le font et le pensent, hein, croyance.
Non. Déjà, les femmes, elles ne sont pas dans l'obligation d'accomplir cette prière, comme le disent les textes fondateurs. Mais en tout cas, le fait d'être dans ce désir ou bien le fait d'être généralement dans cette tristesse qui nous anime du fait que nous soyons loin des lieux saints de l'islam, c'est un bon signe. C'est un signe que nous sommes acquis au moins à la cause de Dieu. Et le fait aussi d'avoir le même sentiment pour Beit al-Maqdis découle de ce sentiment que nous sommes censés avoir pour Beit al-Haram. Donc oui, pourquoi pas? Vous savez, les pieux prédécesseurs disaient « Hatta naumati ahtasibuha lillah ». Quelqu'un qui va se coucher tôt pour se réveiller très tôt, pour aller faire par exemple la prière de l'aube à la mosquée. Son sommeil même est un sommeil qui a été dédié à Dieu. Donc d'un acte banal, nous passons directement à un acte religieux. Ce qui va vraiment donner du mérite ou de l'ampleur à nos actes, c'est l'intention qui les anime. Et ça nous renvoie vers ce fameux hadith que l'imam Shafi'i considérait comme étant le tiers même de la science qu'on considère comme science religieuse. C'est ce fameux hadith « Innama al-a'malu binniyat », ce sont les intentions qui dominent les actes. Donc à partir de là, oui, je pense que le fait qu'une personne a le regard rivé sur son poste télé parce qu'il voit la Mecque au travers, ou bien parce qu'il est branché en direct sur Waqfat Arafah, oui. En tout cas, nous n'allons pas être plus déistes que Dieu, mais Allah subhanahu wa ta'ala est à même de récompenser les gens pour des actes qui nous-mêmes pourraient nous paraître banals, insignifiants. Mais c'est des gestes qui ont pour Dieu leur pesant d'or. Donc oui, pourquoi ne pas considérer cela comme un acte d'adoration, ou du moins pourquoi ne pas voir en cela un bon signe d'appartenance à l'islam?
Très bien, alors Kamal Shakat, c'est la fin de ce numéro d'aujourd'hui, mais je tiens à mentionner ce message de notre ami Gilles Mohamed qui nous suit depuis la Suède, qui dit qu'il avait toute l'opportunité d'aller au Hajj cette année, mais qu'il avait aussi l'occasion, lui avait proposé de faire des actions de charité, de proposer une aide humanitaire à la Palestine, oui. Et il a choisi justement d'aider la Palestine à travers un certain nombre d'actions, oui. mais qu'il a quand même peur de regretter cet acte, parce que ça fait longtemps qu'il rêvait d'aller à la Mecque pour un pèlerinage. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire?
Écoutez, on ne peut que prier Dieu d'agréer ses œuvres, son sacrifice, tout simplement. Maintenant, Dieu va forcément le lui récupérer, le lui donner autre chose en conséquence. Et donc, je ne peux qu'espérer pour lui qu'il ait la possibilité de le faire l'année prochaine.
Si Dieu lui prête vie, il aura toute la latitude d'y aller encore.
Voilà. Et puis,
l'urgence, c'était cette aide humanitaire pour la Palestine.
Vous savez, ça nous rappelle justement cette anecdote que nous avons racontée à maintes reprises de Sahib Kitab Zot, Abdullah ibn al-Mubarak, qui lors d'un pèlerinage, alors qu'il était le commandeur de la caravane, Amir al-Qafila, il arrive vers eux dans une bourgade, il voit au loin une femme en train de chercher dans des poubelles. et il demande à tout le monde de procéder à une halte. Il prend toute la cassette, il la donne à cette femme.
Quel outrage pour les pèlerins.
Ce n'était pas un outrage, justement. C'est ça qui est bien. Vous avez justement cette fibre citoyenne qui animait tout le monde, hein, autant les notables que les gens de masse appartenant à cette caravane. Il a dit « Oudou adrajakum faqad kafatkum hadi hijjatakum li hada al-am ». Retournez, revenez sur vos pas. Cette dernière vous suffit pour cette année, pour l'accomplissement de votre pèlerinage, ou bien ce geste va en quelque sorte remplacer votre pèlerinage. Pourquoi ? Parce que la chose est très très simple. L'honneur et la dignité d'un seul être humain vaut plus que 1000 actes d'adoration. C'est clair, c'est clair. La chose était claire dans l'esprit des musulmans de l'époque. Ce qui est bien, c'est que nous avons dans une histoire contemporaine algérienne, pendant l'occupation française ici, qui n'a pas encore dépassé un siècle, les Algériens étaient animés de cette fibre. Beaucoup faisaient passer l'intérêt général sur leur intérêt personnel, sur leur désir personnel. Vraiment, c'est un esprit qui est plein pied ou qui est plus que compatible à ce qui est souhaité religieusement parlant. Donc, j'espère pour notre ami que son geste soit agréé par Dieu, et je ne peux que prier pour lui que Dieu lui permette d'aller faire un pèlerinage le plus tôt possible, Inch'Allah.
Inch'Allah.
Ensuite, maintenant, là, il y a aussi un autre point. Ceux qui ont choisi d'aller faire leur pèlerinage plutôt que de donner leur argent à Gaza. Parce que nous avons entendu certains dire, voilà, il ne faut pas aller faire le pèlerinage parce que ce pèlerinage, il va profiter à des entités qui vont aider l'entité sioniste, etc. Et nous, enfin, on a eu beaucoup d'intox, beaucoup de prêches. Vous savez, aller faire le pèlerinage dans les circonstances actuelles ou ne pas aller le faire revient au pouvoir discrétionnaire de chaque musulman. Vous avez les moyens, vous avez l'opportunité ou la possibilité d'y aller, c'est à vous de prendre cette décision. Ce qui importe, c'est que vous la preniez juste pour plaire à Dieu et qu'une fois là-bas, vous fassiez ce qui doit être fait par le pèlerin pour recevoir cet agrément de Dieu, de revenir comme une page blanche et de devenir un vecteur du bien une fois votre pèlerinage accompli. C'est le plus important. Ensuite, le reste, c'est une décision personnelle, et je pense que nul d'entre nous n'a le droit de porter de jugement sur ce que font les gens, ce que vous venez de citer de cet ami
Gilles Mohamed de Suède.
Nul n'a le droit de venir vous dire « oui, ça c'est ce qu'il fallait faire ». Non, ce qu'a fait ce monsieur est quelque chose de plus que méritoire.
De témoin humain.
Humain. Et ceux qui sont allés faire leur pèlerinage et dont le pèlerinage a été agréé par Dieu ont eux aussi accompli quelque chose de bien.
Je vous remercie Kamal Chakat pour cette connaissance avec un C majuscule partagée avec les auditeurs tous les vendredis, donc à 5h et à 14h. Et n'oubliez pas de faire un tour du côté des réseaux sociaux, du côté de X.com, au cœur de l'islam, chaîne 3. Nous lisons vos retours et répondons assez souvent. Par contre, vous avez une question de Amel Gharbi que nous avons reçue sur la mailbox, qui demandait est-ce que vos livres étaient donc publiés, est-ce qu'on pourrait les trouver, les livres que vous avez annoncés durant Ramadan, Kamal Chakat.
Écoutez, il y en a un qui est la traduction du Coran, je sais qu'elle est en rupture de stock parce que nous sommes en phase de préparer la deuxième édition avec des ajouts. Pour ce qui est de l'islam et l'orientalisme, qu'il s'agisse de la version française ou arabe, il est mis en vente par une fondation et les revenus vont directement à cette fondation. Beaucoup me posent la question, je ne sais même pas. Bon, je sais qu'ils sont en train de vendre le livre, mais je n'ai pas accès à ces ventes-là. Donc c'est aux gens de faire leurs recherches via les réseaux sociaux. Je ne peux pas dire plus que ça. pour la guerre dans les textes sacrés et les autres livres qui vont suivre, ouais, ça se fera vraiment dans les jours à venir.
Vous l'annoncerez de toute façon,
Kamal. Oui, bien sûr, bien entendu.
Merci Kamal Chekat pour toutes ces informations et merci de nous aider à saisir l'importance de cette humanité de l'islam et à aller vers l'excellence.
Inch'Allah.
Parce que c'est le but recherché.
Inch'Allah.
Merci à tous, merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous et à vendredi prochain, Inch'Allah. Au revoir.
Inch'Allah. Thank you.